France Inter, le 6-9 du week-end.
Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour Karine, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Jardinier de Versailles avec votre célèbre main verte. Oh. Alain, vous affirmez que de tous les grands écrivains français, Alexandre Dumas était sans conteste celui qui avait le plus pris le melon.
Oui, alors je confirme, alors rassurez-vous, loin de moi l'idée de critiquer le célèbre auteur des Trois Mousquetaires. Alexandre Dumas, c'est un fait, adore les melons et il reçoit un jour une lettre du conseil municipal de Cavaillon qui lui demande deux ou trois de ses meilleurs livres pour la nouvelle bibliothèque alors en construction. Il ne sait que répondre et envoie la réponse suivante.
Alors je la lis cette réponse. J'ai un fils et une fille, je crois les aimer également. J'ai 500 ou 600 volumes, je crois éprouver pour eux tous une sympathie à peu près égale.
Alors après réflexion et par amour pour les melons, Alexandre Dumas veut offrir à la commune de Cavaillon l'intégralité de ses œuvres, ce qui représente quand même plusieurs centaines d'ouvrages, et il recevra en contrepartie une belle rente viagère, 12 melons par an de 1864 à sa mort en 1870. Alors le jour de la signature du contrat, toutes les autorités civiles et militaires du département sont présente et Alexandre Dumas va se contenter de quelques mots pour remercier la population venue nombreuse pour cette cérémonie et il va dire cette phrase que je trouve merveilleuse, jamais un auteur ne fut aussi bien payé pour la somme de son travail.
Au Japon, il y a des maraîchers qui, eux aussi, ont le melon.
Ah ben, il y a un sacré melon et on peut les comprendre. L'an dernier, il fut vendu aux enchères à Sapporo sur l'île de Hokkaido, deux melons, pour la somme de 2,7 millions de yens, soit 20 300 euros. Les producteurs étaient déçus, car deux ans plus tôt, deux melons de variété identique avaient atteint le prix record de 5 millions de yens, 37 000 euros. Alors, je ne sais pas si vous aimez les melons en été.
Bien sucré.
Mais le melon à 15 000 euros pièce, ça fait quand même cher le pique-nique.
C'est hors de portée.
C'est
pour moi. Vos beaux conseils à propos de Robert qui essaye d'implanter devant sa maison des plantes à fleurs, mais des plantes à fleurs. Il y a un petit problème, cela dit, le terrain, en dessous, il y a des câbles souterrains d'arrivée d'électricité et d'eau. Et du coup, les plantes n'arrivent pas à se développer. Et même, elles meurent. Y a-t-il, demande Robert, un lien de cause à effet?
Oui, et alors c'est pas du tout un lien mystique, c'est pas une question d'onde. Non, pas du tout. Quand vous faites construire une maison, quelle qu'elle soit, et que vous devez faire passer des câbles, des canalisations, il est évident que vous allez creuser, mais qu'ensuite vous cesserez de manipuler la terre. Donc la terre est extrêmement tassée, car elle n'a pas vu une bêche depuis très longtemps. Mais en plus, vous n'allez pas mettre de la bonne terre végétale pour, j'allais dire, remplir la tranchée. Donc ce sont toujours des terres de remblai extrêmement tassées qui sont mises là où il y a les canalisations, les câbles électriques, les fils téléphoniques. Donc pour bien faire, il faudrait décompacter, changer la terre, mais ce n'était pas simple, vu qu'il y a justement l'ensemble de ces canalisations. Je rappelle également qu'il faut toujours, quand on fait des trous dans un jardin, aller en mairie se renseigner. Parce que là, je ne plaisante pas. Creuser pour planter un arbre ou des fleurs dans un lieu où passent des câbles électriques, ça peut être préoccupant, mais percer un câble avec un outil métallique, ça peut être dramatique. On ne joue pas avec sa sécurité.
Le figuier de Cyril a quatre grosses branches, mais après le gel début avril, deux branches ne sont pas reparties et les feuilles des deux autres branches se sont flétries. Alors Cyril vous demande, Alain, est-ce la fin de notre figuier ?
Peut-être. Mais il y a un terme que j'aime beaucoup dans le domaine des fruticulteurs, c'est le terme d'apoplexie végétale. L'abricotier est un arbre coutumier du fait, pour une raison qui nous échappe complètement, que même les producteurs ont du mal à comprendre, eh bien, une branche de l'abricotier va mourir. Et l'on parle d'apoplexie végétale. En général, quand une plante se sépare d'une partie de son branchage, c'est pour éviter la contamination générale, donc on met à distance l'élément contaminé. Là, je ne peux pas vous expliquer la raison qui fait que ce figuier a décidé de se séparer de deux branches puis de quatre. Mais il est vrai qu'on a l'impression que les plantes, surtout celles que l'on aime, sont immortelles. Eh bien non. De temps en temps, certaines plantes vivent longtemps, très longtemps, très très longtemps. Certains figuiers...
Mais des feuilles qui flétrissent, c'est pas juste un manque d'eau.
Non, cela peut être un problème dans le sol. Mmh. Cela peut aussi être un problème de la racine qui vient d'atteindre une zone un petit peu douteuse, voire une zone douteuse, exemple, un épandage de produits toxiques qui est arrivé au contact des racines. Il peut y avoir eu également dans l'air un épandage de produits qui vient altérer la qualité des feuilles. Il y a quantité de raisons. Vous savez, quand vous êtes, je ne vous le souhaite pas bien sûr, quand vous êtes souffrante, vous êtes peut-être de celles qui préféraient le contact direct avec le médecin plutôt que le téléconseil à distance. Je pense que rien ne remplace le regard dans un regard, le contact d'une main, parce qu'on a besoin de voir, je crois, une personne souffrante pour mieux diagnostiquer son mal et la soigner. pour les plantes, il en est exactement de même. Donc là, il faut examiner l'environnement, ce qui s'est passé, et essayer de comprendre. Mais là, on ne peut pas savoir pourquoi le figuier a décidé de se séparer de ses branches.
Le jardin de Marie-Hélène est envahi d'une centaine de limaces. Elle a essayé de les évacuer avec des granulés, rien n'y fait. On nous a parlé de bière qui est peut-être efficace.
Oui, alors je parle toujours de la structure de bière. Alors, j'ai eu il n'y a pas longtemps une auditrice qui m'a fait une petite correction. Moi, je propose de mettre tout simplement des tuiles, mais c'est peut-être même pas la peine de mettre de la bière. Vous mettez des tuiles près de l'endroit que les plantes ont, que les limaces ont l'habitude de fréquenter. Elles viennent, elles se protègent du soleil, se collent dessus, et le lendemain, il suffit de retourner la tuile et de récupérer les bestioles. Mais le vrai piège à bière, vous pouvez faire tout simple, vous découpez une bouteille en plastique, vous l'enterrez dans le sol, vous mettez de la bière. Et il est vrai que la limace, pour se désaltérer, va tomber dans la bière. Est-ce cet effet de l'alcool ou pas? Je l'ignore, mais on la retrouve noyée. C'est pas très joli, quoique mourir dans la bière, je crois que ça plairait à beaucoup. Eh bien, voilà, donc le piège à bière est efficace, bien entendu.
Mais ça tue celles qui sont là. Enfin, il y en a qui continueront à venir, parce que visiblement, c'est un lieu ou un sol qui les attire.
Oui, mais d'un autre côté, quel est le meilleur ennemi de la limace? C'est peut-être la bière, mais c'est aussi et surtout le hérisson, les petits mulots, les oiseaux. Apprenons à rétablir l'équilibre naturel et vous verrez qu'à un moment donné, tout va rentrer dans l'ordre.
La chaîne alimentaire jusqu'au bout. Allez Alain, un dernier conseil pour ce dimanche.
Oui, c'est la fête des plantes du Jardin Plume, l'un des plus beaux jardins de France. C'est à Auzouville-sur-Rie, R-Y, c'est dans le département de la Seine-Maritime.
Les bons conseils d'Alain Baraton. Merci Alain.